Chapitre 13. L'enterrement d'Eugène ne ressemblait pas à un enterrement, plutôt à une fête triste. Ses 5 enfants étaient là, Ninon, Marcel, Toine, Paul, Ludo, classés par âge et qui se tenaient côte à côte, leurs mères respectives chacune dans leur dos. Le plus petit pleurait, pas de chagrin mais parce qu'on refusait de le laisser courir dans les allées. Le mois de février s'achevait, et le matin même, il avait encore gelé. Le cimetière paraissait avoir été préparé par un technicien des effets spéciaux. Le givre sur les haies, le scintillement des perles de glace sur les branches basses des arbres, tout était magnifique et tout paraissait faux. Un cimetière de cinéma ou de conte de fées. Beaucoup de visages m'étaient inconnus. J'ai souvent constaté cela lors des enterrements. Le mort semble avoir eu plusieurs vies distinctes qui ont mené leur cours sans se mêler. On se croit souvent seul à fréquenter les autres, à vivre des instants avec eux, à les connaître. Leur disparition nous met face à leur multiplicité. Il y avait plusieurs Eugène. Il convient alors de ne pas être jaloux ni possessif. L'absence nous place sur un pied d'égalité. Elle nous dépossède pareillement. J'étais un peu loin de ce que nous pourrions appeler la scène. J'entendais mal. J'étais arrivé en retard. J'avais préféré prendre le métro plutôt qu'un taxi, pour être certain d'être à l'heure, mais le trafic était ralenti. Accident grave de voyageurs. Qui donc avait choisi de se suicider le jour de l'enterrement d'Eugène ? J'ai couru. Je suis arrivé à bout de souffle. J'ai pensé à Godard, qu'Eugène avait rêvé de produire. Il était même allé faire le siège de sa maison à Rolles, en Suisse, sans succès. Il avait juste pu l'apercevoir derrière un rideau, un gros cigare aux lèvres, avec sa tête de vieux hibou à lunettes, qui observait l'intrus. Godard n'avait pas daigné répondre au coup de sonnette. Pire, il avait dû avertir la police, puisqu'Eugène avait vu arriver 2 voitures remplies d'uniformes. Il avait passé quelques heures à être interrogé, très civilement, dans un commissariat de Genève. On avait fini par le libérer en lui faisant promettre de ne plus venir embêter Monsieur Godard. La mésaventure n'avait pas empêché Eugène, pendant des années, de m'emmener en pèlerinage rue Campagne Première, là où Belmondo meurt sous les balles de Daniel Boulanger. La cérémonie avait commencé. J'ai mis du temps à calmer mon cœur. Je viens d'écrire cette dernière phrase il y a quelques minutes. Je me suis arrêté de taper sur le clavier pour la relire plusieurs fois. Les mots, parfois, se doublent d'un sens que nous ne voulions pas leur donner et qui pourtant s'impose comme plus important que ce que nous pensions initialement leur faire dire. J'ai mis du temps à calmer mon cœur. Je voulais, bien entendu, parler des battements accélérés après ma course au sortir de la bouche de métro, mais c'est l'étendue de la peine que les mots ont dessinée. Ce sont eux qui ont raison, bien sûr. Ninon a parlé, puis Marcel, qui est un peu plus jeune qu'elle, qui ne m'a jamais trop aimé, je ne sais pas pourquoi, et qui vit à Singapour, où il travaille pour une société pétrolière dont il s'évertue à augmenter les profits. Toine a lu un poème qu'il avait composé et Paul, du haut de ses 12 ans, a chanté la chanson préférée d'Eugène, « Mon enfance » de Barbara, en s'accompagnant à la guitare. Ludo pleurait. Pas à cause de la chanson, pour les raisons que j'ai dites. Mais aussi peut-être à cause de la chanson, qu'en sais-je au fond. Je ne sais pas ce que cela veut dire d'avoir 7 ans et d'enterrer son père. Quand Paul a fini de chanter, nous avons tous applaudi. Et puis soudain, dans les applaudissements qui s'éteignaient en désordre, les accords d'une autre guitare se sont élevés dans l'air froid. Je reconnaissais une mélodie que Eugène m'avait souvent fait entendre quelques années plus tôt. Et puis, dans le silence retrouvé, il y a eu la voix, une voix reconnaissable entre toutes, qui a commencé à chanter les paroles.
God knows how I adorn life. When the wind turns, on the shore lies another day. I cannot ask for more.
Je suis parvenu à apercevoir au loin, debout, près du cercueil de Gênes, la silhouette filiforme, élégante, un peu voûtée, comme si elle retenait un perpétuel sanglot, de Bette Gibbons, qui chantait le visage perdu dans ses fins cheveux blonds, les yeux fermés, et tout à côté d'elle, le guitariste qui l'accompagnait.
When the time bell blows my heart, and I have scored a better day, well, nobody made this war of mine. And the moments that I enjoy, a place with love and mystery, I'll be there anytime.
Au milieu des années 90, Eugène avait produit un documentaire sur le groupe Portishead, dont Bette Gibbons était l'âme. Je savais qu'ils étaient restés en contact, qu'ils dînaient ensemble quand elle passait à Paris, et qu'ils se rendaient chez elle parfois à Bristol, il me semble.
Mysteries of love, where war is no more. I'll be there anytime.
Il me parlait de temps à autre d'elle. Tu l'aimerais beaucoup, j'en suis sûr. De sa légèreté d'équilibriste ironique, avec laquelle, disait-il, elle avance dans le monde et dans la vie. Sa voix fragile, et qui ce jour-là l'était encore davantage, par la faute du chagrin peut-être, et aussi par celle du froid, montait doucement dans les ramures des arbres dénudés.
When the time bell blows my heart, and I have scored a better day, well, nobody made this war of mine.
Nous écoutions, toutes et tous, immobiles, touchés par le chant de l'anglaise qui nous unissait plus encore à Eugène et les notes de guitare tissaient autour de nous un ruban doux et triste.
And the moments that I enjoy, a place of love and mystery, I'll be there anytime.
Il y avait des actrices, des acteurs, des producteurs, beaucoup de femmes, énormément de femmes, belles, jeunes ou moins jeunes, dont le froid rosissait les joues et embuait les yeux. Certaines semblaient pétrifiées dans une sorte de stupeur attendrie.
Mysteries of love, where war is no more, I'll be there anytime.
Jusqu'à la fin, Eugène a essayé de séduire. Jusque dans les dernières semaines, quand il ne quittait plus le lit de l'unité de soins palliatifs où il avait été admis, l'antichambre, comme il disait. Je passais chaque jour plusieurs heures avec lui. La dernière conquête qu'il a tenté de faire fut celle de Marguerite, une des infirmières de l'équipe de jour. Une Martiniquaise que je n'ai jamais vue ne pas sourire. « Voulez-vous m'épouser, Marguerite ?» lui disait Eugène devant moi. « Je suis libre comme l'air. » Marguerite riait, lui caressait les joues, lui massait les jambes et les pieds, le dos, avec une crème qui sentait l'amande et l'huile d'olive. « Je suis sérieux, Marguerite. N'est-ce pas que je suis sérieux ? Dis-lui, toi, qui me connais si bien. » Eugène me prenait à témoin. J'acquiesçais. Je savais qu'il était sérieux, qu'il aurait épousé Marguerite si elle avait dit oui. Eugène mourait d'être seul. Son petit cancer, devenu grand, était apparu dans un moment où Eugène, pour la première fois de sa vie, dans son âge adulte, était seul. Un moment où il n'était pas amoureux, où il n'était plus avec sa précédente compagne et pas encore avec la suivante. Le cancer s'était glissé dans l'interstice que l'amour avait laissé libre. Une fois là, il n'avait plus voulu partir. Il avait écartelé méthodiquement le faible espace. Eugène était mort de ne plus aimer et de ne pas être aimé. Ce n'est que plus tard que j'ai pensé à cela. L'explication en vaut une autre. Elena ne s'est pas moquée de moi quand je lui en ai parlé. Lorsqu'il le pouvait encore, nous sortions tous les deux dans la cour de l'hôpital. Eugène dans un fauteuil roulant que je poussais doucement, car je craignais toujours qu'il ne bascule en avant. Je l'enroulais dans deux couvertures, la tête dépassée à peine, Tu ressembles à E.T., lui disais-je. Rassure-toi, je ne compte pas m'envoler, répondait-il. Il faisait froid et sec. Un après-midi de février, nous avons même quitté l'enceinte de l'hôpital, en douce. Emmène-moi au dehors, je veux dire dans la rue, emmène-moi dans un café, je veux revoir un café. Et comme je rechignais, lui disant que c'était de la folie, Eugène a ajouté « Considère que cela fait partie de mes dernières volontés. Estime-toi heureux de pouvoir en exécuter une alors que je suis encore vivant. Ce n'est pas donné à tout le monde. » À une cinquantaine de mètres du porche, il y avait un bar tabac tenu par des Chinois. Ni le barman, ni la serveuse, sa femme, sa sœur, ne se sont étonnés de notre curieux équipage. J'ai poussé un peu les tables pour faire passer le fauteuil. Nous nous sommes installés au fond de la salle. Nous étions les seuls clients. Eugène avait un visage de poisson lune, sans couleur, d'une rondeur atroce et livide, cireuse. Seuls ses yeux n'avaient pas changé. Il me l'avait fait remarquer, la maladie triomphait de tout son corps, mais pas de ses yeux. Les yeux qui sont les mêmes, de l'enfance à la mort. Nous avions commandé deux verres de vin, un médoc pour Eugène, un Riesling pour moi, pour avoir l'air de vrais consommateurs. Mais nous n'y avions pas touché. Nous avions tout de même trinqué. À quoi ? Avait demandé Eugène, provocateur. À la Chine, lui avais-je répondu. Il avait souri. À la Chine. Eugène regardait autour de lui comme si nous étions face à un spectacle féerique. Le bar était lugubre, d'une laideur remarquable. Sol en carrelage beige, table et chaises en plastique vert, comme celles que l'on aperçoit derrière des pavillons de banlieue, près d'un barbecue en dur. Au plafond, des néons circulaires versaient sur nous une lumière d'aquarium et au mur, d'épouvantables paysages stylisés en écailles et fausses nacres. Figuraient des rizières et des ponts sur des lacs. Les yeux de Gênes brillaient de plaisir. Il se posait sur les choses de la vie dont il savait qu'elle se dérobait peu à peu sous ses pieds, retirée comme un tapis usé par une main indifférente, une main qui faisait son métier, tout simplement. La cloche de la porte a tinté, avec un son aigrelé, vieillot, comme on peut en trouver encore dans les films de l'entre-deux-guerres. Un couple est entré, l'homme très grand, vieillard maigre, qui portait un chapeau mou de feutre sombre, qu'il a enlevé immédiatement. Il avait sans doute dépassé les 80 ans. La femme était un peu moins âgée, quoique... Ils se sont dirigés sans hésiter vers une table, comme des habitués. Se sont assis, sans enlever leur manteau, et ont commencé à parler avec animation et à voix basse, dans une langue qui me semblait être d'Europe centrale. Ils avaient l'air de deux conspirateurs, ce qui, en raison de leur âge, leur donnait un aspect plus comique qu'inquiétant. J'ai cessé de les regarder pour revenir à mon ami. J'ai constaté alors que Gênes semblait magnétisé par l'homme qu'il ne quittait plus des yeux. J'ai posé ma main sur la sienne. Il n'a pas réagi. J'ai commencé à caresser sa main qui était froide et gonflée. Eugène est revenu peu à peu vers moi, mais son regard, dans un premier temps, ne me voyait pas. Il apparut ensuite sortir d'un songe. Comme je fronçais les sourcils pour lui demander ce qui lui arrivait, il m'a dit à voix basse « Tu ne le reconnais pas ?» J'ai jeté un œil de nouveau vers le vieil homme. J'ai fait signe que non à Eugène. Kundera, c'est Milan Kundera.